Bienvenue sur le podcast de Moodstep. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode en compagnie d'Aurélie Collet. Nous allons parler de sourire aujourd'hui. Et oui, sourire au boulot, c'est possible. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur iTunes, ou bien vous pouvez retrouver toutes les références qui vont être citées dans cet épisode sur le site de Moodstep, moodstep.com. Retrouvons Aurélie. Bonjour Aurélie.
Bonjour. Bonjour Johanna.
Eh bien, bienvenue sur ce podcast. Je te propose que pour commencer, parce que les auditeurs, moi je te connais, mais parfaitement bien sûr, mais les auditeurs pas forcément. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes d'où tu viens, quel a été ton parcours?
Eh bien, je suis bretonne déjà, ça c'est un point commun qu'on a ensemble, c'est que c'est la Bretagne est notre terre d'énergie. Voilà, donc toi au sud, moi au nord, mais voilà, moi je suis du côté du Cap Fréhel, dans un petit village qui s'appelle Pleurien. Mon parcours, eh ben, je viens du tourisme à la base. J'ai 20 ans de métier dans le tourisme. J'ai travaillé dans des grands groupes comme Accor, pour ne pas le citer. Donc, je connais les grandes structures d'entreprise. J'ai travaillé aussi dans des structures plus petites où il fallait plus de polyvalence, mais toujours dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie.
Et dans quel métier ?
Fonction commerciale principalement à 99%. Un peu de marketing aussi, mais beaucoup de commercial. Et puis, j'ai quitté Paris pour revenir sur nos terres natales en 2007 et pour créer ma propre agence de voyage sur mesure, qui s'appelait Perles de Voyage. Donc là, j'étais seule à la tête de cette structure et j'ai fermé cette agence en 2013. Le contexte économique n'était pas tellement favorable et j'ai eu la sagesse de fermer au bon moment. Donc voilà. Et depuis, eh bien, j'ai lancé une nouvelle activité qui n'a strictement rien à voir avec tout ce monde du tourisme, bien qu'on j'apporte quand même du bonheur aux gens, mais d'une autre façon, c'est que je développe le rire et la bonne humeur dans les entreprises avec une structure qui s'appelle The Smile Workshop. Voilà un petit peu mon parcours.
Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans ces disciplines? Parce que c'est quand même un changement assez radical, toi qui as travaillé pratiquement toute ta carrière dans le tourisme. Qu'est-ce qui t'a fait changer de route?
Alors, j'ai changé de route parce que la vie se charge de mettre des obstacles, des signes, des synchronicités. Vous les appelez comme vous voulez. Moi, je dis aujourd'hui que ce sont des signes et que j'ai mis du temps à les comprendre, mais que maintenant, je les ai compris. 2005, j'étais encore chez Accor. Je fais une première poussée de sclérose en plaques. À l'époque, on ne diagnostique pas trop la maladie. C'est ce qui me décide en 2007, lors de la deuxième poussée, à quitter la région parisienne et à quitter Accor pour venir m'installer en Bretagne pour retrouver des bases plus saines. Pour fuir un peu tout ce stress, cette ambiance, on va dire, anxiogène que je subissais et chez Accor et dans la région parisienne. Et puis, 2012, je refais une poussée de sclérose en plaques.
Juste pour comprendre la sclérose en plaques, c'est quoi une poussée de sclérose en plaques?
Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie du système nerveux central. Et une poussée, c'est à un moment donné où la myéline, qui est l'enveloppe qui entoure le nerf, se détruit, on va dire. Et ça déclenche, donc ce qu'on appelle la poussée, c'est en fait une crise inflammatoire où on a des symptômes alors différents d'une personne à l'autre. Voilà, moi en l'occurrence, ce sont des parasthésies, des fourmillements, des engourdissements dans les membres inférieurs, donc avec une grosse difficulté à la marche. Pas de douleur à proprement parler, en tout cas dans mon cas, mais une grosse difficulté à la marche et une grosse fatigue et à chaque fois une bonne dose de cortisone en intraveineuse à raison d'un gramme par jour. Voilà, donc sur 3 à 5 jours en fonction de l'importance de la poussée.
C'est quand même quelque chose de bouleversant dans une vie. Comment tu as intégré ça dans ta vie?
Ah bah la première crise, on ne l'accepte pas. J'ai 32 ans, je suis jeune, je mène une vie qui me plaît, je voyage partout, je fais un métier que j'adore, enfin voilà, la vie est superbe. Et là, on vous annonce que bah, si vous continuez, vous risquez d'être handicapé, finir dans un siège roulant, vous allez plus pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez plus pouvoir voyager. Donc colère, non-acceptation, énervement. Bon, il se trouve que ça passe. Le médecin nous dit, bon, bah, on verra ce qui se passe dans les années à venir. Ça recommence 2 ans plus tard. Donc, rebelote, recolère, 15 jours dans le fond d'un lit avec une perfusion dans le bras, comprenant pas pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi ça vous arrive à vous. Enfin, les questions que je pense toute personne qui en annonce une maladie se dit, mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, j'ai pas mérité ça. Enfin, voilà, vraiment de la colère. Et puis, après, on se remet en question, on essaye de voir quelles sont les priorités de vie. Et moi, effectivement, entre en 2007, j'ai 34 ans et je me dis, j'ai pas envie de continuer à vivre comme ça. Et c'est comme ça que je quitte Paris et que je quitte Accor pour me retrouver moi et retrouver un sens à ma vie qui soit plus proche de ce que je suis et laisser plus de place à l'être que je suis plutôt qu'à courir, à faire en permanence. Et quand en 2012, bah, la troisième crise arrive, je suis vraiment pas bien physiquement. Là, j'ai quand même 4 semaines d'arrêt maladie avec une entreprise à faire tourner, donc autant te dire que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et quasiment, alors 2012, 2013, 2013, je découvre le yoga du rire en fait. Donc c'est comme ça que le rire arrive dans ma vie. À un moment donné où je suis hyper tendue, hyper stressée, tout mon corps est en tension, je dors mal la nuit, il faut que je gère la fermeture aussi de Perles de Voyage. Enfin voilà, j'étais vraiment pas bien. Et en pratiquant le yoga du rire pendant presque une demi-journée, je ressors de la journée mais détendue, apaisée. Dans le lâcher prise et avec enfin une bonne nuit de sommeil. Donc le rire arrive comme ça dans ma vie, à titre personnel.
Ce qui est fabuleux dans ton histoire, c'est que tu peux vraiment évaluer concrètement l'effet de cette pratique sur ta forme physique, en fait.
Ah mais maintenant que je le pratique et que je le diffuse autour de moi, je dirais même que quand je n'ai pas assez ma dose de rire, je suis limite en manque quand même. Donc voilà. Mais oui, physiquement, enfin, moi j'ai trouvé la méthode, en tout cas pour moi, parce que chacun a ses propres méthodes, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est ça, c'est extérioriser toutes les angoisses, les émotions, le stress, en expulsant par le rire, en fait. Donc voilà, alors certains vont préférer la sophrologie, le yoga, la méditation. Moi, c'est vraiment le rire, même si je fais aussi de la méditation, mais le rire vraiment physiquement. Après une journée, même quand j'anime moi-même les ateliers, après une journée, je me sens hyper détendue, quoi. Je me sens vraiment bien, vraiment relâchement total. Enfin, voilà. Et donc, c'est un vrai pouvoir sur mon corps et sur mon mental.
Donc en fait, toi, avec ta maladie, c'était évident, mais en fin de compte, on serait peut-être tous porteurs de ces stress qu'on ne voit pas forcément, qui sont sous la carapace, on va dire. Ça correspond. Tu as dit qu'il y avait des gens qui iraient plutôt vers la sophrologie. À qui ça correspond, cette pratique?
Ben, je pense que la pratique, c'est pour les gens qui ont peut-être du mal à se dire, moi, les méthodes, on va dire. Alors, je n'ai rien contre toutes ces méthodes-là, je le dis bien haut et fort. Tout ça est complémentaire et voilà. Mais peut-être qu'il y a des gens comme moi je suis quelqu'un d'assez dynamique, d'assez enthousiaste. Je suis quelqu'un, effectivement, de joyeux à la base. Et j'ai eu beaucoup de mal jusqu'à maintenant à trouver une technique où il fallait que je m'asseye à un endroit et que je reste statique. Le fait de pratiquer le rire et le yoga du rire, on est en mouvement. Donc ce mouvement, c'est de l'activité physique, c'est une autre façon de trouver de l'activité physique plutôt que d'aller courir ou d'aller faire du tennis ou d'aller faire ce genre de choses. Là, on fait une activité physique aussi parce qu'elle est quelque part sportive aussi. On fait quand même marcher 400 muscles quand on rit. Voilà. Et moi, c'est vrai que c'est ce que j'y ai retrouvé, c'est ce côté bonne humeur, cette joie, cet enthousiasme, cette convivialité qui correspond à ma personnalité en fait. Donc je pense que ceux qui sont un peu dans cet esprit-là vont y retrouver un bien-être aussi. Et si on est tous stressés à un moment donné, plus ou moins fort dans nos vies. Et je sais que quand j'anime des ateliers, les gens me disent oui, enfin le rire déstressant, voilà, je ne crois pas trop. T'es bien gentil. Bon alors, quand j'anime un atelier, les 5 premières minutes, j'ai quand même 20, 30 ou 40 personnes qui me regardent en disant elle est complètement barrée cette pauvre dame. Mais effectivement, après la séance, automatiquement il y a des échanges et les échanges me disent ça nous a fait un bien de rire comme ça, mais c'est énorme, on a complètement lâché prise, on a tout oublié pendant une heure et demie. Ou une journée, si c'est une journée. Donc, même les gens qui se disent non, non, je suis pas stressé, quand ils le mettent en pratique, ils se rendent compte qu'au bout d'une heure, ils sont déjà dans le lâcher prise et ils se sont fait du bien.
Peut-être tu pourrais nous décrire cette activité de yoga du rire, tout le monde ne connaît pas en quoi ça consiste, par exemple un atelier.
Alors, un atelier moyen, il dure entre 1 heure, 1 heure et demie. Et en fait, ce sont 4 activités que chacun connaît, en fait, que l'on met en pratique. On les a tous connus, ces activités. Alors, on les utilise plus ou moins souvent en grandissant, en devenant adulte, mais c'est juste simplement du jeu, de la danse, du chant et de jouer le rire. Donc, une séance à proprement parler, sur 1 heure, on a une partie d'exercice à base de taper dans les mains, de ho-ho, ha-ha-ha, de jeu. Alors, jeu individuel, jeu collectif, des jeux qu'on a fait dans les cours de récréation quand on est enfant ou quand nos enfants le font encore aujourd'hui. On va chanter, on va danser avec des exercices de leadership, des exercices de coopération, des exercices de cohésion. Et puis à la fin, on finit au bout d'une heure, parce qu'on aura mis les gens en ambiance, avec ce qu'on appelle une méditation du rire, qui se fait soit assis sur une chaise, ou assis par terre, ou allongé, où là, effectivement, les gens ferment les yeux, affichent simplement un sourire, et puis on laisse venir les émotions joyeuses qu'on a ressenties ou qu'on ressent. Et là, on part dans un grand fou rire général. C'est souvent les premières images que l'on voit quand on cherche sur Internet ce que c'est que le yoga du rire. Voilà à peu près ce que ça donne. Mais c'est difficile d'en parler. Le mieux, c'est quand même de le vivre, hein, très honnêtement.
C'est sûr.
Voilà.
Mais en fait, oui, c'est de le vivre, mais encore faut-il passer cette barrière qu'il y a à comment on se représente une session de yoga du rire. Tu dois rencontrer quand même des réticences, non?
Alors, je rencontre des réticences. Ce qui est assez drôle dans les réticences, c'est que quand j'ai un acheteur, qu'il soit directeur ressources humaines ou directeur commercial ou directeur de communication, les gens pensent connaître leurs collaborateurs en disant un tel va réagir comme ci, un tel va réagir comme ça. Moi, j'entends, mais je ne retiens rien de ce que l'on me dit. Je le mets de côté parce que la nature humaine est extrêmement surprenante. Les gens qu'on se dit ils vont pas adhérer, c'est souvent ceux-là qui adhèrent, et les gens qui doivent adhérer, ce sont souvent ceux-là qui n'adhèrent pas forcément. Ceux qui n'adhèrent pas restent quand même très infimes, parce que comme c'est une activité qui se fait en groupe, l'émulation du groupe, il y a effectivement les 5 premières minutes où on me regarde en me disant vraiment elle me fait faire des trucs complètement fascinants.
Oui, parce qu'il y a une notion d'avoir peur du ridicule, non, dans le yoga du rire.
Tout à fait. Alors, sachant que moi je précise bien dans une séance de yoga du rire, c'est que le yoga du rire, on n'est pas là pour rire des autres, on est là pour rire de soi-même, qu'on est là pour qu'on n'a pas besoin d'être heureux, qu'on n'a pas besoin d'avoir de raison et qu'on n'a pas besoin d'avoir d'humour pour rire. Donc effectivement, ça interloque un petit peu les gens et qu'ils ont ces 5 premières minutes en disant mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Alors pour peu qu'il y ait le directeur, le collaborateur, enfin voilà. Moi, je n'ai pas tous ces liens hiérarchiques. Enfin, je le sais à peu près si vous voulez, mais je ne prends pas en considération. J'adapte en fonction de ce qu'on me demande. Je ne pousse pas trop loin le bouchon parce qu'effectivement, c'est aussi un milieu social qu'il faut respecter. Mais effectivement, le groupe fait qu'à un moment donné, 5 minutes, 10 minutes, au bout de 10 minutes, tout le monde est parti et tout le monde se lâche et tout le monde oublie et le lâcher prise, il est là. Et voire même souvent, c'est le groupe qui est force de proposition sur des exercices. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec mon kit d'animation, mais le groupe peut prendre la main et en disant, nous, fais une proposition à l'instant comme ça. Et je suis ce mouvement-là parce que c'est aussi le groupe qui est moteur de toute cette alchimie, en fait. Donc je laisse faire. Voilà. Mais effectivement, la peur du regard de l'autre, le jugement, intervient toujours. Et à bout de 10 minutes, on oublie tout parce qu'effectivement, on est 20, 30, 40 ou 50, voire 80 à faire la même chose. Donc, tant qu'à faire, on est 80 et ridicule, quoi.
C'est vrai que je me fais un peu l'avocat du diable, mais je me dis aussi est-ce que on ne se dit pas que c'est forcé, donc c'est mimé, donc c'est joué, donc ce n'est pas réel, ce rire ? Comment on provoque un rire franc et massif ?
Alors, les premiers rires sont effectivement, on a l'impression que c'est forcé. Alors évidemment, c'est forcé parce que c'est du jeu. Donc on joue le rire, mais c'est comme si on faisait du théâtre en fait. Si vous prenez des acteurs au théâtre comme au cinéma, quand ils doivent jouer une scène de rire, ils le forcent ce rire. Donc, et puis à un moment donné, à force de rire comme ça, ça vient très naturellement. Et comme en plus on met des exercices qui font vraiment que on rigole de soi, le rire vient de plus en plus facilement. Après, j'explique quand même une chose importante, c'est que le rire forcé a exactement les mêmes vertus que le rire naturel. C'est-à-dire qu'un bon fou rire entre amis ou un rire forcé dans une séance de yoga du rire, les vertus sont les mêmes sur le corps et sur l'esprit. Donc, le cerveau ne fait pas la différence, il va sécréter des endorphines du bonheur et le corps va agir de la même façon et à un moment donné, on ne fait plus la différence. Et j'ai une citation que je donne toujours en début de séance, c'est qu'il faut rire pour être heureux et non pas attendre d'être heureux pour rire. Voilà. Donc on est dans la question métaphysique et finalement à la fin de la séance les gens se disent oui finalement j'ai ri, j'ai peut-être joué le rire, mais qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je me sens heureux, qu'est-ce que je me sens joyeux, alors qu'à la base ils étaient peut-être pas forcément dans cet état d'esprit là, ils avaient peut-être pas envie de rire.
Parce que tu rentres directement par la porte de la physiologie en fait.
Oui, je donne beaucoup d'indications, alors parce que moi j'interviens dans les entreprises principalement et je veux pas que cet outil soit décrédibilisé dans les entreprises. Donc il faut que la personne qui va utiliser le rire dans son équipe puisse se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur son équipe, et en termes de groupe, et en termes d'individu. Donc je donne toujours des informations sur ce que le rire apporte à chacun. Effectivement, que ce soit physiologique, physique, et puis dans l'ensemble du groupe. Donc après, quand j'explique qu'une minute de rire, ça équivaut à 45 minutes de relaxation, les gens se disent « Ah, effectivement, plutôt pas mal ». Donc quand ils estiment qu'ils ont ri pendant 60 minutes tous ensemble, alors, c'est pas 60 minutes continues, hein. Il y a quand même des pauses aussi, parce qu'il y a beaucoup d'exercices de respiration aussi.
Tu vas nous les tuer, attends.
Non, moi aussi, il faut que je tienne la distance. Donc voilà, c'est beaucoup d'énergie pour moi, parce qu'il faut que j'y mette aussi l'énergie positive et que les gens puissent me suivre. Mais il y a aussi des exercices de respiration pour que chacun puisse reprendre justement son souffle. Donc voilà, mais c'est ponctué de petits chiffres que je donne comme ça pour que les gens puissent l'approprier et se dire, tiens, cet exercice-là, il me plaît et vu l'impact que ça peut avoir, je vais le réutiliser plus tard.
On peut le réutiliser, mais en individuel, tu veux dire?
Ah, il y a des exercices qu'on peut réutiliser en individuel, oui. Moi, je me suis à donné comme objectif de pouvoir faire des choses que l'on peut faire et en équipe et en individuel, ou avec ses enfants, ou avec ses collaborateurs, enfin voilà, et d'être du coup un petit peu locomotive par la suite, même si moi, je suis plus là pour animer.
Et tu interviens sur des groupes de combien de personnes? Quelles sont les modalités de tes interventions?
Alors, sur le... Parce que moi, j'ai deux activités différentes, en fait, parce que j'estime que le rire peut intervenir sur deux bases différentes. Alors, il y a la partie événementielle, hein, team building, ouverture de convention, clôture de convention, ce genre de choses, où là, on est sur de l'événementiel pur. Là, je vais de 10 pour des équipes commerciales, alors sur l'atelier à proprement parler, jusqu'à 80-90 personnes. Et si on a en événementiel ouverture de session de convention, là, mon record est à 1200 dans un amphithéâtre.
Ah!
Mais c'est sur une petite partie de 15-20 minutes. Bon, qui me demande autant d'énergie qu'une heure, hein, mais parce qu'il faut emmener les 1200 avec soi. Mais voilà, ça peut être ce genre de choses sur la partie événementielle. Après, sur la gestion du bien-être, qualité de vie au travail, je suis sur des groupes qui vont de 10 à 100 personnes à peu près. Et j'ai toujours aussi des activités qu'on peut combiner en séparant les groupes, en alternant. J'ai des gens avec lesquels je travaille, on peut combiner plusieurs choses.
Mais du coup, alors, ça mène deux questions. Est-ce que c'est récurrence? Tu fais plutôt ça de façon récurrente ou juste une fois?
Alors, le une fois pour moi n'a aucun intérêt.
Ah,
Mais
ok.
effectivement, non, mais alors après, voilà, pour moi, c'est ma conviction personnelle. Faire un shoot de rire 1 heure et demie ou 1 journée ou 1 demi-journée dans son équipe, oui, les gens vont apprendre des choses, vont se rendre compte des choses, mais c'est comme le sport. Plus vous pratiquez, plus ça rentre dans les habitudes et plus c'est facile de rire. Donc, quand vous commencez le footing, si vous courez 1 heure dans le mois, pas gros d'intérêt. Le rire, c'est exactement la même chose. Donc moi, je voudrais que les entreprises puissent comprendre que le yoga du rire peut se mettre en récurrence, comme ça commence à se faire avec le yoga et la sophrologie. Je n'ai pas encore le client, je l'avoue honnêtement, qui a encore pris de la récurrence. Voilà.
Ah
Mais
oui, tu l'as pas.
je ne l'ai pas encore, mais j'y travaille. Et ça commence à venir. J'y travaille.
Tu fais vraiment faire rentrer ça dans nos gènes, quoi.
Ah mais parce que c'est des habitudes. On dit souvent que c'est sur 21 jours qu'on prend une habitude, que le cerveau prend l'habitude. Le rire, c'est exactement la même chose. Je dis souvent dans mes ateliers, essayez de rire 3 minutes par jour pendant 21 jours. Et voyez le résultat au bout de 21 jours, comment votre corps et votre cerveau réagissent par rapport à ça.
Oui, puis vu ton vécu, c'est vrai que toi, tu l'intègres dans quelque chose qui relève de la santé et donc d'une pratique continue, quoi.
Voilà, tout à fait. L'intérêt de faire du sport, c'est d'y aller régulièrement et de façon récurrente. Le rire, c'est exactement la même chose.
Et la deuxième aspect, c'était en fait, c'est un des outils que tu utilises dans quelque chose de plus global. Quel est Parce que quand on a préparé ce podcast, la question à laquelle tu voulais répondre était de la question de ralentir, s'écouter. Où est-ce que tu places ces workshops dans ton activité globale? Ou
Là.
peut-être dans quelque chose de plus global comme le fait de ralentir?
Alors, moi, j'essaye de. En fait, je suis entourée de beaucoup de gens qui sont plutôt des TPE, des PME, des entrepreneurs solo, comme je le suis et depuis maintenant 2007, hein, parce que j'étais avec Perles de Voyage et je le suis encore aujourd'hui. Mon expérience me fait dire que souvent, ces gens qui ont des petites entreprises, ou des petites équipes ou qui travaillent en solo, fonce, 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 parce qu'ils se disent il faut absolument que j'y arrive, il faut absolument que j'y arrive, et ils se mettent une pression d'enfer. Et puis jusqu'au jour où, bah, travaillant de 7 heures le matin à 23 heures le soir, 7 jours sur 7, le corps commence à faiblir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Faire le voyage, très honnêtement, j'ai tiré sur la corde un certain nombre de mois, jusqu'au moment où il a dit stop. Et bah, 1 semaine d'hospitalisation, 3 semaines de convalescence, on arrive à 4 semaines d'arrêt de travail. Quand vous avez une entreprise qui ne repose que sur vos épaules, il est
C'est dramatique.
C'est dramatique. Enfin, moi, je me suis retrouvée avec les fournisseurs qui m'appelaient, les clients qui devaient partir en voyage, les banques qui me disaient on n'a pas d'argent. Enfin, voilà. Et à un moment donné, vous avez avec d'autres tensions, il peut rien se passer. Et je me dis, mais voilà, c'est pas parce qu'on va à toute vitesse, on force et on force que ça fonctionne. Donc moi, aujourd'hui, effectivement, j'apprends le lâcher prise aussi dans mon métier, à être moins en force, à savoir dire stop et à me dire aujourd'hui, j'y arrive pas, je bloque, je ne vais pas rester pendant 8 heures devant mon ordinateur s'il n'y a rien qui sort. Donc, j'essaie de faire comprendre à ces gens qui sont en TPE, en PME, qu'ils ont aussi le droit de lever le pied, ils ont aussi le droit de prendre soin d'eux. C'est pas réservé qu'aux grandes entreprises, parce qu'effectivement, la qualité de vie au travail, de bien-être au travail, souvent, on parle à des grandes entreprises, mais on parle peu de ces petites entreprises-là qui ont autant besoin, voire peut-être même plus, que les grands groupes. Et donc, du coup, je voudrais qu'ils arrivent à comprendre qu'il faut qu'ils ralentissent. Et moi, mon idée, c'est de leur apporter les solutions avec le rire, notamment.
Mais c'est ton seul outil, le rire, aujourd'hui? C'est ton activité principale?
À l'activité de le rire et puis tout ce qui tourne autour du rire, c'est-à-dire que je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle, avec la psychologie positive, et puis avec d'autres outils parce que je fais partie aujourd'hui d'un collectif bien-être. Alors c'est pas le nom définitif et parce qu'on n'aime pas encore ce nom, mais comme on débute notre projet, où on se rend compte qu'on est tous complémentaires avec nos activités et que et ben on peut monter des opérations qualité de vie au travail bien-être avec de la sophro, avec du qigong, avec de l'improvisation théâtrale, avec du conseil en images, avec toutes ces ce genre de choses. Donc moi je me nourris aussi avec beaucoup de partenariats.
D'accord. Est-ce que tu es prête pour un petit questionnaire? C'est un questionnaire qui est commun à toutes les interviews. Tu es sûre que tu es prête?
Oui, ben je vais bien.
Ah
On a le droit à un joker ou c'est pas possible?
non, il n'y a pas de joker. Ça, c'est que à la télé. On n'est pas à la
Voilà.
télé ici. Hein.
Alors, j'ai
Ah
pas
non,
de
non.
buzzer, donc j'ai pas de joker.
La
D'accord.
télé, c'est tout faux, c'est tout bidon. Ici, c'est du réel, on répond aux questions.
Alors, je vais répondre aux questions. Bah, allons-y, je me lance.
Alors la première question est sur un échec ou une erreur que tu aurais fait dans ta vie personnelle ou professionnelle, sachant que j'utilise ce mot et que je sais que dans chaque erreur et dans chaque... Et c'est pour ça que j'utilise cette question, il y a des apprentissages. Donc j'aimerais bien avoir une histoire personnelle, une histoire vécue, personnelle ou professionnelle, où tu t'es planté.
Je me suis plantée avec Perles le Voyage, très honnêtement. Parce que Perles le Voyage, j'ai mis la clé sous la porte, hein, j'ai fait une cessation de paiement, donc une liquidation judiciaire. Alors, de mon fait, hein, c'est moi qui l'ai choisi, mais parce que je ne tirais pas de salaire de cette activité-là, sans compter qu'effectivement le contexte en 2012-2013 était compliqué. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai eu peur de vendre cher, en fait. Voilà, donc j'ai pas vendu assez cher et donc j'ai pas dégagé des marges. Suffisante pour pouvoir vivre de cette activité-là,
Ah,
même
tu veux
si.
dire à tes clients? Oui,
Oui, ah
d'accord.
oui, pas. Oui, à vendre mes voyages.
Donc, tu avais une espèce de frilosité à valoriser ce que tu faisais, en fait.
Complètement. C'est-à-dire que quand je montais un voyage sur mesure, ils étaient tous sur mesure. J'avais pas de catalogue. J'alignais les hôtels, les excursions, l'avion, etc. Et quand je sortais le prix, je le faisais en fonction de moi quasiment. Enfin, j'exagère. Mais quand je voyais un prix, je disais, oh, c'est peut-être un petit peu cher. Et en fait, mon présupposé à moi et certainement pas celui du client. Et Dieu sait que j'en ai vendu des voyages quand même et des gens qui ont acheté des voyages avec des paniers moyens qui tournaient autour de 3 500 et 4 000 euros par personne. Donc voilà, mais à chaque fois, effectivement, je me mettais cette barrière et je pense que j'ai perdu des. Enfin, j'ai pas perdu, j'ai pas trouvé surtout des clients idéaux qui étaient capables d'acheter mes voyages parce que j'avais peur de vendre au prix
Et
réel que je faisais.
du coup, qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon?
Et ben,
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça raconte comme histoire?
ça raconte qu'à un moment donné, la valeur du travail que l'on a et de la valeur que l'on a sur soi, il faut avoir un regard bienveillant sur ce qu'on apporte aux gens, en fait. Et être bien assis et bien prendre sa place pour vendre ses prestations de service. Je parle prestations de service parce que le produit, je dirais que c'est encore différent, mais prestations de service, si on ne croit pas en son activité, en son produit, en son service et la valeur qu'on y apporte, on a d'autant plus de mal à le vendre au prix qu'il faut. Moi, aujourd'hui, je suis tout à fait consciente de la valeur ajoutée que j'apporte aux gens parce que je le vis et j'ai moins de scrupules à aller vendre ma prestation au prix réel.
Donc tu penses que c'est juste lié à ce que tu vendais?
À la façon dont je le vendais.
Mais tu es la même personne, tu vends juste un produit, même si c'est un service différent. C'est quoi la différence entre les deux?
Parce que je pense qu'aujourd'hui, le rire a. Je connais tellement les valeurs ajoutées que ça a sur moi, que je suis la première vitrine de ce que je vends, que c'est beaucoup plus simple pour moi que ce que je vendais pour les voyages. Et parce que sur le voyage, je me mettais toujours par rapport à la concurrence, qui n'avait rien à voir avec
D'accord.
moi. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas trop de concurrence, sans être trop vantarde. En tout cas, dans
Ok.
le milieu de l'entreprise, sur le yoga du rire, il y a plein d'animateurs yoga du rire, bien évidemment, mais en entreprise, pour l'instant, je trouve que
Pas
j'ai
tant
une
que ça.
bonne marge de manœuvre.
Deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil que tu as utilisé dans ta vie qui a été une véritable aide pour progresser?
Tu veux dire très conceptuel, très ou est-ce que ça peut être juste un accompagnement?
Je dirais, non, par exemple, je sais pas, l'hypnose, la PNL, la communication non violente, ouais, vraiment une technique ou quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire, c'est-à-dire que. Quelle technique tu pourrais conseiller?
Alors, récemment, ça date de l'année dernière, et là, on va tomber dans le monde spirituel élargi. Moi, j'ai suivi une masterclass de psychobiologie quantique à Paris. Et je dois dire que ça m'a donné des clés de lecture de la vie très intéressantes. Voilà, ça m'a ouvert plein de choses.
C'est marrant, je crois que j'ai une amie qui fait ça. Comment s'appelle? C'est une école ou c'est un enseignant particulier?
Un centre holistique à Paris qui est notamment animé par Pascal de Galatis.
Voilà, oui, c'est ça.
Voilà, et nous avons une amie commune qui a suivi la même chose.
Ok, c'est ça, je vois très bien. Ok, merci beaucoup. Ensuite, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
L'écoute, la bienveillance et le respect de l'humain.
Très bien. Est-ce que tu as un livre dont tu conseillerais la lecture?
Je peux en conseiller un, le problème c'est qu'il ne se vend plus.
Ah! Ah!
Il a été fait en série limitée.
Mais parle-nous-en quand même. Et notamment, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises juste pourquoi tu conseilles ce livre. Qu'est-ce que tu y as appris?
Alors, c'est le livre qui s'appelle Âme forte et cœur sensible que j'ai dans la main pendant que je te parle.
Attends, tu peux répéter parce que j'ai pas bien compris.
Âme forte et cœur sensible dans la peau de deux entrepreneurs. C'est écrit par Céline Bourrat et Morgane Sifontus.
Ah, je vois très bien qui est Céline Bourrat.
Voilà.
Bah, alors à ce moment-là, on pourrait référer à son blog.
Tout à fait, c'est le luxe d'être soi.com.
Voilà, le luxe d'être soi.
Et donc, pour résumer leur livre, je vais prendre la citation qu'elles ont mise en couverture de fin de leur livre. Nous sommes des artistes qui avons emprunté la vie de l'entrepreneuriat pour découvrir qui nous sommes et ce que nous avons à dire au monde. Voilà. Et ce livre est à lire. Si un jour elle ressort des exemplaires, je le souhaite à tout le monde. Quand on le lit, on vibre de partout. Voilà, ça bouillonne dans le ventre, ça réfléchit dans la tête, ça boue aussi dans le cœur. Enfin, c'est un livre qui est fort en émotion parce qu'en plus on se retrouve dans leur parcours d'une manière ou d'une autre. Et elles sont d'une sensibilité à fleur de peau toutes les deux qui sont. Voilà,
Et dernière question, est-ce que tu aurais une citation qui pourrait définir ton action?
Eh bien, la citation, ça va être Bienheureux celui qui a appris à rire de lui-même. Il n'a pas fini de s'amuser. Voilà.
Vrai qu'elle est géniale.
Voilà. Moi, donc, j'ai appris à rire de moi-même, c'est-à-dire ce que j'explique en séance de yoga du rire, quand les gens me regardent en disant, elle est complètement barrée, cette pauvre dame. Je leur dis, le ridicule ne tue pas. Regardez-moi, je suis encore en vie. Voilà. Et Dieu sait qu'avec le nombre d'heures d'animation que j'ai faites, si le ridicule avait tué, il y a longtemps que je serais morte, en fait. Voilà. Donc j'apprends à rire de moi-même avec beaucoup de joie.
Et tu apprends du coup aux autres aussi à faire ça
Exactement. Je libère ma joie intérieure pour aider les autres à libérer la leur.
Fabuleux. C'est très clair comme
Voilà.
mission.
Exactement.
Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, on peut me retrouver plein d'endroits. Alors déjà, j'ai un site internet qui est thesmileworkshop.com où on retrouve le blog également. Et puis, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux que sont Facebook, LinkedIn, YouTube et alentour. Voilà.
Donc, juste avec ton prénom et ton nom, Aurélie Collet, on te trouve sur YouTube? Ou
Aurélie
de
Collet, oui.
Smile Workshop?
Normalement, les deux sont dessus. Donc, ma chaîne s'appelle Aurélie Collet, The Smile Workshop. Donc, on doit pouvoir retrouver
Ah
les
oui,
deux.
donc on a les deux. Eh bien, je te remercie pour cet échange passionnant. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Bah de rire, encore plus.
Bah, c'est bon, là. Bon, t'es bien partie, en tout cas. Merci beaucoup Aurélie
Merci à toi, Jo.
et merci à tout le monde d'avoir écouté. Rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast. Et pour retrouver toutes les informations sur Aurélie, ce livre, citation, son site internet,
Rendez-vous sur moodstep.com. Dans la barre de droite, vous pouvez trouver un outil de recherche. Il suffit de taper son prénom et son nom, ou de Smile Workshop. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, et ce fut un plaisir de passer cette demi-heure avec vous, en espérant qu'il y en ait encore beaucoup d'autres.